Que le nom du Seigneur soit béni. Ouvrons le Saint Livre, mes frères et sœurs, dans le psaume 78, où nous allons lire un constat. Psaume 78, du verset 5 au verset 9. Les textes que je vais vous laisser, je vous encourage à les noter peut-être, comme j'ai l'habitude de vous le dire, pour vous aider dans vos cultes personnels à revoir les enseignements que nous partageons. Psaume 78, du verset 5 au verset 9. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle soit connue de la génération future. Des enfants qui naîtraient, et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu, et qu'ils observent ses commandements, afin qu'ils ne soient pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, tournèrent le dos le jour du combat. Voilà un constat que Dieu a fait à cette époque, mais qu'il peut refaire certainement, hélas, régulièrement au cours de l'histoire, et aujourd'hui encore certainement, des hommes et des hommes qui étaient armés, capables de combattre, et qui pourtant, le jour du combat, ont tourné le dos. Nous reviendrons certainement sur ce texte. J'aimerais aller un petit peu plus loin, lire une prophétie dans Ésaïe, au chapitre 56, le verset 7, s'il vous plaît. C'est Dieu qui se prononce sur ce que sera sa maison. Ésaïe 56, verset 7. Ésaïe 56, verset 7. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Je relis, s'il vous plaît, cette parole qui est une prophétie. Il y a 2800 ans, Dieu a décidé de donner un nom à sa maison. Et il dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples, ou pour toutes les nations, suivant vos versions. Dieu, le Créateur du ciel, le Sauveur, le Roi des rois, et nous pourrions, et nous aimons le faire, rappeler ses attributs. Nous aimons le faire. Dans nos cultes de louange, nous rappelons toujours que le Seigneur est le Rédempteur, qu'il est le grand roi, le roi des rois, le Père éternel, le conseiller, le prince de la paix, ça ressort toujours dans nos prières, oui ou non ? Il y a des attributs qui, à certains moments, nous touchent plus que d'autres. Vous êtes d'accord avec moi ? Et ce grand Dieu, le seul Dieu vivant, a décidé un jour de donner un nom à sa maison. Et il est catégorique, il sait ce qu'il fait, il a le devoir de nous le dire pour que nous comprenions bien ce qu'il veut. Il veut que sa maison soit une maison de prière. Il aurait pu donner plusieurs noms à sa maison, oui ou non ? Dieu aurait pu donner plusieurs noms, c'est évident. Mais il n'y a qu'un nom, il aurait pu dire ma maison sera une maison de prière et d'enseignement, vous voyez, etc. Non, il dit ma maison sera une maison de prière. Cela devrait nous faire réfléchir, c'est le but de ce moment, après avoir pris la Sainte Cène, écouter un beau cantique qui nous rappelle l'œuvre de Jésus, après avoir partagé plein de choses au milieu de ces moments, un moment où le Seigneur peut nous parler. Où j'en suis dans cette affaire-là de la prière. Est-ce que ma maison, puisque nous sommes sa maison, à l'heure, nous avons chanté un très beau cantique. Il m'est venu à l'esprit hier, justement, pendant que je préparais ce sermon. D'ailleurs, je l'ai marqué. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Vous l'avez chanté ? Si vous étiez à l'heure, vous l'avez chanté. Comment pouvons-nous chanter ? Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir, pour le servir, si l'Église ne prie pas. Soyons sérieux, soucieux d'aller plus loin dans les voies du Seigneur. L'Église est appelée à lutter, oui ou non ? C'est écrit, vous avez à lutter, nous pourrions prendre que les textes là-dessus, ça suffirait de faire une introduction sur ce sujet. D'autant plus, et c'est ça qui est merveilleux, c'est que Dieu, qui a tout préparé à l'avance, il faut bien comprendre, frères et sœurs, parce que je crois que si certains chrétiens se battent ou se débattent avec la volonté de Dieu, c'est récurrent. Il y a des chrétiens qui sont convertis depuis 5 ans, 10 ans, ils sont tout le temps en train de se débattre avec la volonté de Dieu. Ils sont pas conscients de ce que pourtant Dieu a tout annoncé à l'avance. Tout, c'est tout indiqué. Dans le psaume 78, on voit ce reproche que Dieu, que l'Éphraïm qui représente Israël, qui pour nous représente l'Église, les chrétiens qui ont tourné le dos au jour du combat. Il y a des combats plus difficiles que d'autres, mais il y a des combats. En plus, Dieu, pour ces combats, comprenons-le, mes frères et sœurs, Dieu, pour tous les combats que nous avons à mener, nous a donné des armes. Vous êtes d'accord ? Dieu ne nous a pas laissés sans armes. Et si, hélas, le combat peut être parfois mauvais ou difficile, même si des fois il y a des combats qui sont compliqués, je l'avoue, mais ce n'est pas quand même ce qui devrait se passer continuellement. Le Seigneur nous dit, vous avez à lutter, il y a des jours mauvais, vous avez à lutter, non pas contre la chair et le sang, contre les dominations, etc., mais prenez toutes les armes. Prenez toutes les armes, prenez la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, le zèle, les chaussures que donne le zèle de paix, l'évangile de paix, le casque du salut, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, faites en tout temps par l'esprit des prières pour montrer qu'il n'y a pas que les armes, il y a aussi l'intérieur, le courage. Vous comprenez bien, mes frères et sœurs, que Dieu, dans sa immense grâce, parce qu'on l'a chanté, ce cœur rappelait l'immense grâce de Dieu, s'il nous propose et nous demande de lutter, vous pouvez bien comprendre que le combat deviendra un bon combat si nous prenons toutes les armes. Mais, voyez, dans le texte des psaumes, Éphraïm, armé et tirant de l'arc, je crois avoir lu dans une version qu'ils étaient exercés au combat, sont donc ces gens qui savaient se battre. Eh bien, ils ont malgré tout tourné le dos. Et nous devrions, peut-être ce matin, tous, moi le premier, nous poser les bonnes questions et nous dire, mais où j'en suis ? De cette affaire, est-ce que ma maison, est-ce que mon église est une maison de prière ? Et c'est pour tout le monde, vous l'avez lu avec moi, ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. C'est partout sur la terre, n'imaginez pas qu'il y a un pays qui est moins concerné qu'un autre, un endroit qui est moins concerné qu'un autre, non. C'est pour tout le monde, pour tous les peuples et pour toutes les nations. Alors la première question qu'on pourrait se poser aujourd'hui, je ne parle pas pour Sainte-Anne, je parle pour l'Église. L'Église avec un grand E. Qu'est devenue l'Église du Seigneur ? Je pense à toutes les dénominations chrétiennes bien sûr. Qu'est devenue l'Église du Seigneur aujourd'hui sur la terre, dans notre pays ? Dans bien des endroits, l'Église est devenue un centre social. Et bien sûr qu'il faut faire du social, parce que la foi sans les œuvres... elle est morte. Mais l'Église ne doit pas être qu'un centre social et nous devons nous appliquer. Paul enseigne, vous devez vous souvenir des pauvres. L'apôtre Paul, dans ses épîtres, rappelle régulièrement, presque à toutes les églises, l'importance de faire du social. Mais nous avons dans bien des endroits, et je vous assure, là je pense à tout le corps de Christ, Parce que je sais quand même que dans cette assemblée, beaucoup de frères et de sœurs font la différence entre le social et le spirituel. Même si beaucoup d'entre nous avons tourné le dos au combat. Dans beaucoup d'endroits, l'église est, c'est beaucoup plus grave qu'un centre social. Dans des endroits, nous le reconnaissons tous, ce sont des lieux de, d'animation. Je veux peser mes mots. Je veux vraiment peser mes mots. Mais vous savez que tout ça est vrai. La maison de Dieu, cette maison que Dieu veut bénir, car vous pouvez bien comprendre que si Dieu est venu sur la terre en Jésus-Christ et qui a tout accompli, qui nous a donné son Fils, qui, s'il nous a donné son Fils, nous donnera-t-il toutes choses avec lui. La maison du Seigneur, on devrait être consciencieux et bien dire, c'est vrai, Dieu m'a sauvé, il m'a cherché, il m'a introduit dans son royaume, il m'a introduit dans sa maison. Qu'est-ce que Dieu avait dit lorsqu'il a institué sa maison? C'est bien, vous voyez, de faire un raccourci des choses. Tiens, qu'est-ce que Dieu avait dit lorsque sa maison a été dédicacée du temps de Salomon? Qu'est-ce que Dieu avait dit? Dieu avait dit, là sera toujours mes yeux et mon cœur. Vous connaissez la dédicace? C'est magnifique. Vous lisez la dédicace du temple, vous dites, oh, qu'est-ce que Dieu a voulu? Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce qu'il a dit lorsque sa maison a été dédicacée du temps de Salomon? Que là, j'aurai toujours mes yeux et mon cœur. C'est beau quand même, hein? On a besoin de ça. La maison de Dieu, alors c'est dans l'Ancien Testament, d'accord, c'était le temps, mais aujourd'hui c'est quoi? Eh bien, Paul le dit par exemple dans 1 Timothée 3:5, il dit, si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, il le dit, Hébreux 3:5, sa maison, c'est nous les chrétiens. C'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance. La maison du Seigneur, c'est nous les croyants, nés de nouveau, pourvu bien sûr que nous retenions les choses qui sont écrites, évidemment. Éphésiens 2:19, nous sommes gens de la maison de Dieu, pour être un temple saint dans le Seigneur. Donc, si nous sommes les gens de la maison de Dieu, si sa maison c'est nous, si un local, lorsqu'il est rempli de chrétiens, devient la maison de Dieu, si individuellement nous sommes tous le temple du Saint-Esprit, nous devrions nous intéresser à ce sujet quand même. Tiens, mais où j'en suis au fait de cette affaire, la prière, les obstacles à la prière. Oui, ça c'est un sujet que je ne vais pas aborder. Mais quand même, peut-être, je dis peut-être, mais c'est sûr, peut-être que bien des chrétiens ont bâclé la prière parce que cela fait longtemps qu'elles n'ont pas été exaucées. Donc, il y a une espèce de fatigue, de lassitude, de découragement, ça tient debout, ça. Et donc, on tourne le dos. Alors on ne s'arme pas et c'est ainsi que dans le royaume de Dieu, et je répète, je pense à toutes les églises, on basculait ou dans des activités pour remplacer cette affaire. Mais moi je maintiens cette pensée que Dieu a donné qu'un nom à sa maison, ma maison sera une maison de prière pour tout le monde. Bien sûr qu'il y a plusieurs formes de prière, c'est important de parler des formes de la prière. Je ne vais pas parler des obstacles, ça me prendrait trop de temps. C'est un sujet quand même qui pourrait suivre cette exhortation. Les obstacles à la prière, mais d'abord les formes de prière. C'est quoi la prière? Sincèrement, mes frères et sœurs, si dans la rue demain vous rencontriez quelqu'un qui vous a dit « Tiens, j'ai lu 2 ou 3 textes dans la Bible que tu m'as offerte sur la prière, mais c'est quoi la prière? C'est quoi pour toi qui es converti depuis 20 ans ?» C'est important peut-être, mes frères et sœurs, ce matin, de refaire un petit exposé de ce qu'est la prière. Bien sûr, tout ce matin, nous avons eu toute la joie de louer Dieu. Vous l'avez fait à haute voix. Je pense que tous, si vous êtes chrétien, vous l'avez fait dans votre cœur au moins, oui ou non? Vous l'avez fait dans votre cœur, ceux qui n'ont pas élevé la voix à haute voix? Dès qu'un chrétien, dans un lieu de culte, élève sa voix, ça fait partie de la prière. Ça s'appelle de la louange. C'est vrai que Moi, j'aimerais que dans nos lieux de culte, ça, ce que je dis, c'est une parenthèse. Parce qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un qui est dans la souffrance de prier pour quelqu'un qui est malheureux. Mais il me semble que nos cultes, ça devrait être des cultes de louange ou d'adoration. Vous voyez ce que je veux dire ? Un chrétien qui est là, qui prie en silence. Pendant la Sainte-Cène, nous avons ce temps de silence. Je crois que c'est un moment de prière. Oui ? C'est un moment de communion avec Dieu. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Dans Lamentation de Jérémie, il est dit, mais il se tiendra solitaire et silencieux, car l'Éternel le lui impose. Je ne sais pas si vous acceptez le fait que Dieu puisse nous imposer certaines choses. Ou est-ce que vous faites partie du Seigneur ? Ah non, moi on ne m'impose rien. Que vous n'acceptiez pas que des gens vous imposent certaines choses, ça peut tenir debout. Mais quand ça vient de Dieu, moi je vous assure que c'est une bonne chose que Dieu nous impose certaines choses. Croyez-moi. Lorsqu'un chrétien supplie Dieu parce que quelqu'un de sa famille est en train de mourir, il le supplie. Une supplication, c'est des prières. Et nous pourrions voir vite, vite fait toutes ces formes de prières. Lorsqu'on intercède, il est parlé de faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce, de remercier Dieu. C'est Jonathan qui a rappelé le psaume 133, hein, pour parler des bienfaits, de la communion fraternelle. Voilà, c'est une prière. C'est une prière, un rappel du psaume 133. C'est une forme de prière. Une précision. Quand l'apôtre Jacques dit, écoutez-moi bien, frères et sœurs, je pense beaucoup de nos difficultés seraient réglées par ce que je vais vous dire. Lorsque l'apôtre Paul indique l'état dans lequel nous pouvons nous trouver, il dit par exemple, quelqu'un est-il dans la joie ? Non. Quelqu'un est-il dans la joie ? Qui chante des cantiques ? Quelqu'un est-il dans la souffrance ? Qu'il prie. Écoutez-moi bien, frères. Il n'est pas dit, quelqu'un est-il dans la souffrance ? Qu'il parle à Dieu. Qu'il prie. Écoutez-moi bien, frères et sœurs, parce que j'ai peur. J'ai peur. Ça vient de nous, ça, certainement, qui avons mal enseigné. J'en suis conscient. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Parfois, vous savez, on me traite de légalisme parce que j'expose des pensées de manière peut-être un peu carrée. C'est pas du légalisme. C'est des choses simples. Quelqu'un est-il dans la souffrance ? Qu'il prie. Mais prier, est-ce que ce n'est pas aussi écouter Dieu ? Sérieusement, est-ce que ce n'est pas dans le silence, prendre du temps, dire « Seigneur, je suis en train de souffrir, je traverse ce moment difficile, est-ce que tu n'aurais pas ? Qu'est-ce que tu veux me dire ?» Parce que des fois, la prière, si c'est comme monologue, je me donne 5 minutes ou plus, et voilà, je dis au Seigneur tout ce que j'ai à lui dire, et on a besoin de dire certaines choses. Seigneur, je le dis, et bénis mes enfants, et bénis mon mari, et bénis mon épouse, et bénis mes petits-enfants, et bénis mon travail, et bénis mon patron, et bénis moi. Enfin bon, j'exagère un peu, mais souvent avouons que nos prières peuvent ressembler à un monologue, et on a fini, et on s'en va. Oui ou non ? Ce n'est pas un monologue, la prière. La prière devrait aboutir à un dialogue. Ou ce moment où dans la souffrance ou dans la joie, je me prépare à écouter Dieu. Vous voyez, la prière, ça revêt plusieurs aspects. Je me souviens, un dimanche, c'était. Nous étions là en prière. Ou un mardi, je ne me rappelle plus. C'était ici un jour. Et il y avait une femme, on savait que c'était une prostituée. On le savait, elle est venue et dans le moment de prière, elle a prié Dieu. Et il y a un frère qui m'a dit, « Monsieur Gaud, c'est une prostituée. Elle prie. » Mais j'ai dit, « Mais c'est bien. Que Dieu fasse qu'il y en ait plein qui viennent prier. » Il ne savait pas, vous voyez, c'était le souci de... Mais béni soit Dieu, quand une personne dans la misère vient et crie à Dieu. Est-ce que ce n'est pas ça la maison de prière aussi ? Est-ce qu'un gars dans la débauche peut venir et prier Dieu, se repentir ? La repentance, dans un moment même comme celui-ci, « Seigneur, je te demande pardon, j'étais loin de toi, tu m'as convaincu de péché, je te demande de me sauver. » La maison du Seigneur est une maison de prière.
Le pécheur, n'importe quel, qui prie, a le droit de prier. Bien sûr, si c'est un chrétien qui fait la comédie, il va falloir quand même l'aider. Mais un fils prodigue qui revient, qui dit, Seigneur, pendant des années, je t'ai abandonné. Je reviens, donne-moi ta paix, donne-moi ton pardon. Est-ce que l'Église peut avoir ce genre de réunion de prière? Ou des fils prodigues, est-ce que des fils prodigues ont le droit de prier? Mais bien sûr, voyez. C'est important, mes frères et sœurs. C'est très important que la maison du Seigneur soit une maison de prière. Dieu veut. Il a donné son idée, il n'a pas changé d'avis, il veut que sa maison soit une maison de prière. Vous comprendrez bien, mes frères et sœurs, que Satan fera absolument tout pour empêcher cela. Tout. S'il y a bien une chose que le diable fera, c'est cela. Empêcher que sa maison soit une maison de prière. D'ailleurs, nous le savons tous. Si ce que je vais vous dire, j'espère que vous allez vraiment être d'accord, parce que c'est peut-être pas compris par tous. Mais est-ce que ce n'est pas la chose la plus difficile à réaliser dans une vie de chrétien, dans une vie de piété? La prière. Est-ce que ce n'est pas la plus difficile chose à faire? On peut servir, oui, même prêcher. Dans un domaine, dans un autre, préparer des cantiques, je ne sais pas. On peut servir et faire et continuer à faire et tout ça de bon cœur. Je ne sais pas. J'ai la conviction, pour l'avoir vécu, que c'est plus facile de faire des choses que d'avoir une véritable vie de prière. Pourquoi ? Eh bien parce que le diable, il fait tout. Il fait tout, le diable, pour nous empêcher de prier. Et aujourd'hui, je pense, et je ne vais pas développer cette pensée, je pense qu'il n'a pas de mal à avoir donné des moyens aux hommes pour empêcher les chrétiens de prier. Je pense qu'il n'a pas de mal, croyez-moi. Satan a un but lui aussi. Quand vous lisez dans Ésaïe, ou dans les rois, quand il est parlé de Satan, il dit ceci, je voudrais m'asseoir à la place de Dieu. La chute de Lucifer, elle est exprimée dans plusieurs textes, et il dit, je voudrais m'asseoir à la place de Dieu. L'iniquité a été trouvée dans son cœur, il a cru qu'il pouvait supplanter Dieu. Pardon. Il n'a pas changé d'avis. Regardez avec moi ce texte quand même dans Thessaloniciens, regardez avec moi. C'est pour vous dire que lui, il persévère, je vous le dis. Regardez avec moi s'il vous plaît. Dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, un texte où l'apôtre précise que le jour du Seigneur n'est pas encore là, etc. Et il parle de l'apostasie. Alors le verset qui nous intéresse, c'est le verset... On va juste lire le verset 3 et le verset 4. Regardez, mes frères et sœurs, combien il y en a un qui s'est persévéré, croyez-moi. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3 et 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. L'adversaire, regardez bien frères et sœurs, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et je peux vous dire qu'il va y arriver puisque c'est prophétisé. Après l'enlèvement de l'Église, c'est ce qui va arriver. L'antéchrist va arriver à s'asseoir dans le temple de Dieu qui va être reconstruit à Jérusalem. C'est ce qui va arriver. Vous voyez, il y en a qui persévèrent, je vous le dis. Il fait tout, il fera tout. Il l'a dit, je voudrais m'asseoir à la place de Dieu. Et il veut détruire l'Église. C'est pour ça que Dieu va enlever l'Église. Parce qu'il la protège. Et quand vous lisez la parole de Dieu, mes frères et sœurs, alors il y a des textes, moi j'aimerais qu'il n'y en ait que deux ou trois, il y en a des dizaines. Des dizaines de textes où le Seigneur a voulu que l'on voit comment le diable s'y prend pour empêcher que sa maison soit une maison de prière. On va en lire un ou deux, on a le temps, on va en lire peut-être deux. Deux Rois 23. Je voudrais mes frères et sœurs que vous... ça n'a pas changé, c'est le même principe. Deux Rois au chapitre 23. Bon, c'était du temps du roi Josias. C'est trop là qui me gêne. 2 Rois 23. Regardez ce qu'ils avaient fait. 2 Rois 23, verset, on va lire que du verset 4 au verset 7. Ouais. 2 Rois 23, verset 4. Le roi ordonna à Elkija, le souverain sacrificateur, aux sacrificateurs du second ordre, à ceux qui gardaient le seuil, de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté, pour toute l'armée des cieux. Et il les brûla hors de Jérusalem, dans les champs du Cédron. Il en fit porter la poussière à Bethel. Il chassa les prêtres des idoles établies par les rois de Juda pour brûler les parfums sur les hauts lieux, dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem. Ceux qui offraient des parfums à Baal, c'est dans la maison du Seigneur, je ne sais pas si vous comprenez. Au soleil, à la lune, aux zodiacles, à toute l'armée des cieux, il sortit de la maison de l'Éternel, l'idole d'Astarté, qu'il transporta hors de Jérusalem vers le torrent de Cédron. Il la brûla au torrent de Cédron et la réduisit en poussière. Il en jeta la poussière sur les sépulcres des enfants du peuple. Il abattit les maisons des prostituées. Prostituées, vous avez vu que c'est ES, donc c'est des hommes. Il abattit les maisons des prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel, où les femmes tissaient des tentes pour Astarté. Voilà ce le diable avait réussi à faire dans cette maison où Dieu avait dit, là il y aura toujours mon cœur. Alors peut-être pour comprendre un peu plus, j'ai pris un autre texte dans Ézéchiel, parce qu'il en dit un peu plus long, c'est plus clair encore. Dans Ézéchiel, regardez. Ézéchiel chapitre 8, verset 5. Regardez bien, mes frères et sœurs. Ça fait mal au cœur, vraiment. Ce que l'ennemi a réussi à faire dans la maison de Dieu. Et j'ai pris ce texte parce qu'au verset 6, il y a une indication qui en dit long. Ézéchiel 8, verset 5. Il me dit, « Fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. » Je levais les yeux du côté du septentrion et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel, à l'entrée, carrément. Il me dit, « Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font ? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, regardez bien maintenant, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. » Vous vous rappelez à l'inauguration ? Là, il y aura toujours mes yeux, il y aura toujours mon cœur. Et ils avaient introduit dans le temple des choses qui ont fait que Dieu a dû s'éloigner. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis, je regardais, et voici, il y avait un trou dans le mur. Il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçais la muraille, et voici, pardon, il y avait une porte. Et il me dit, entre, et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrais, je regardais, et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles, de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jaazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures? Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Bon, j'arrête. J'arrête. Des choses qui se sont passées dans la maison du Seigneur, afin que Dieu s'éloigne. Vous comprenez pourquoi l'Ancien Testament a été donné à l'Église ? Pour que nous puissions être instruits dans ces choses. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que soyons, on est là, on est obligé de lire ces textes. On est obligé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que si l'Église ne prie pas, l'œuvre ne se fera pas. Écoutez, mes frères et sœurs, je ne sais pas si c'est clair comme je vous le dis. Si l'Église ne combat pas parce qu'elle a toutes les armes pour combattre, arrêtons de dire que c'est difficile. Je sais que des fois c'est plus difficile, je sais, mais quand même. Soyons honnêtes devant Dieu. Si on a toutes les armes, on peut combattre. C'est sûr que si vous envoyez un soldat en caleçon avec juste une petite baguette sur le front où il y a j'allais dire un mot qu'il ne faut pas dire. S'il y a vraiment des soldats opposés, je pense qu'avec son caleçon, il ne va pas tenir longtemps. C'est peut-être pour ça qu'on ne combat pas. Si l'œuvre, si l'Église ne prie pas, elle laisse entrer dans la maison de Dieu des choses que Dieu ne veut pas. C'est pour cela qu'après l'enlèvement de l'Église, lorsque le temple d'Israël sera reconstruit, l'ennemi aura carte blanche pour s'asseoir dans la maison de Dieu. C'est sérieux. La prière, c'est pour tout le monde. Dès que quelqu'un prend le baptême, écoutez-moi, mes frères et sœurs, c'est vrai que si nous instruisions mieux les personnes qui deviennent des chrétiens et pour devenir des vrais disciples, peut-être qu'elles le réaliseraient mieux. Mais dès qu'un pécheur entre dans le royaume, dès qu'un chrétien fait partie du corps de Christ, il devient un prieur ou un intercesseur. Il y a des textes, bien sûr, qu'il n'y a pas que celui-là. Mais quand Jésus leur adresse une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher, ça ne veut pas dire qu'il faut prier 24 heures sur 24. Bien sûr, il y a des gens, des fois, ils nous posent des questions. Mais c'est un état d'esprit. Quand Jésus dit dans les signes de la fin des temps, « Veillez et priez afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront sur la surface de toute la terre. » Il l'a dit ou il ne l'a pas dit ? C'est la seule solution pour être prêt quand Jésus reviendra, de veiller, tiens, qu'est-ce que Dieu dit ? Il faut que je le fasse. On a chanté un très beau cantique, je veux marcher dans la vérité. C'est ça que vous avez chanté ? Je veux marcher dans la vérité. J'ai décidé de marcher dans la vérité. Merci Jonathan. Lorsqu'un homme devient chrétien, il doit devenir un homme de prière. C'est quelque chose, je ne vous parle pas du temps, c'est un état d'esprit. Nous devons avoir cet état d'esprit. Rendez continuellement grâce. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ça veut dire que quelles que soient les épreuves, les difficultés, en tout temps, je le bénirai. Je suis dans l'épreuve, Seigneur, je te bénis. Je suis dans l'abondance, ben je te bénis. Je me demande bien si ce n'est pas plus difficile d'être dans l'abondance. Paul avait appris à vivre dans l'abondance. Il faut prier, mes frères et sœurs. C'est un impératif. Ne me traitez pas de légaliste de grâce à la sortie, parce que j'ai pris cet impératif. Jésus a dit, il faut prier. Mais si vous ne voulez pas prier, ne priez pas, bien sûr. Mais c'est une grâce de prier, parce que la prière, qu'on le veuille ou non, engage un moment de communion avec Dieu aussi. Quand même. Bien sûr, si on s'approche de Dieu que pour demander, on le voit ça. Moi, mes enfants, quand ils étaient petits, des fois, ils tapaient à mon bureau. « Papa, je peux te parler ?»« Mais bien sûr, mon fils. Qu'est-ce que tu veux ?»« T'as pas 10 euros ?»« Pardon, 15 euros ?» Et bon, ils repartaient avec ou sans. Mais si on s'approche de Dieu que pour demander, c'est sûr que le manque de communion va rendre déficient la communion avec Dieu, c'est évident. Mais on devrait prier pour que les gens rencontrent Dieu. On doit prier pour les meneurs de chant. C'est pas beau quand un meneur de chant a la pensée du Seigneur. Je ne sais pas si vous avez prié pour le frère qui ferait chanter ce matin. Mais voyez, vous regarderez mes notes. J'ai mis comment peut-on chanter. Le chant qu'on a chanté, le deuxième chant, Dieu a une armée qui se lève. Vous regarderez. Moi, je crois que c'était conduit. Comment peut-on chanter Dieu a une armée si je suis toujours en caleçon, spirituellement parlant. C'est je ne sais pas. Il y a un pasteur qui avait dit, je me rappelle dans un bouquin, s'il y a bien un domaine dans lequel les chrétiens mentent, c'est dans le domaine du chant. Mais je pense que c'est vrai. On doit prier pour les pasteurs, pour le pécheur. Peut-être il y a quelqu'un, peut-être que vous venez pour la deuxième fois, troisième fois, vous venez, vous cherchez une église, vous êtes dans la difficulté, vous vous demandez, mais est-ce qu'il y a des églises? Est-ce que ça existe toujours? Est-ce qu'avec ce qui se passe avec l'église catholique, avec les églises évangéliques ou autres, est-ce qu'il y a un Dieu qui prend soin de son peuple? Vous êtes en droit de vous poser ces questions, et c'est bien que vous vous les posiez. Est-ce qu'il y a vraiment une église? Eh bien oui, il y a des églises où Dieu honorera sa parole. Il n'honorera que sa parole. C'est clair. On doit prier pour que les pasteurs soient inspirés. Vous avez envie d'entendre des sermons qui ne servent à rien? Est-ce que vous priez pour ceux qui interviennent? Pour les musiciens? Les musiciens, mais non, les musiciens. Les musiciens, ils doivent aussi avoir cette grâce quand ils jouent. Oui ou non? Etc. Enfin, on pourrait prendre. Pour que Jésus règne dans mon couple, dans ma maison. Etc. On doit prier. L'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi, l'éloignement de Dieu, s'installe partout où on ne prie pas. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Alors ma conclusion, elle est dans Matthieu. Je voudrais la lire simplement. Dans Matthieu 21, il s'est passé une histoire où Jésus rappelle la prophétie qui avait été donnée il y a 800 ans avant. Du temps d'Ésaïe, on l'a lu tout à l'heure. Il la recite quand il est venu sur la terre. Pourquoi il la recite? Eh bien, pour nous montrer que Jésus n'a pas, pour que Dieu n'a pas changé d'avis. Matthieu 21, verset 12. Regardez ce qui s'est passé du verset 12. C'est important, mes frères, de regarder toujours dans quel contexte Jésus a rappelé une prophétie. Le contexte. Matthieu 21, verset 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. J'hésite parce que je pense à un verset où verset 17, il est parti à Béthanie. Dans le temple où, en fin de compte, il n'a pas été reçu. Pardon. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Dont le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait avant de rappeler la prophétie? Il va faire quelque chose qu'il doit faire, il n'est pas en colère. Il est dans la sainteté, il est dans la pensée de Dieu. Et il doit faire quelque chose qu'il faut absolument faire dans le temple de Dieu, dans notre propre temple, dans notre église, dans les églises, dans le corps de Christ, dans le royaume de Dieu. Nous devons absolument chasser ce qui n'a rien à faire dans le temple. Alors, mais c'est vrai qu'ici on est, c'est vrai, béni soit le Seigneur, pendant cette assemblée on a protégé l'église de tout le divertissement qui s'y produit aujourd'hui. D'accord. Mais mes frères et sœurs, Jésus l'a fait. Je ne pense pas qu'il a dû arracher un œil ou un bras à quelqu'un avec le fouet qu'il avait constitué. Il a fait que ce qu'il devait faire. Lorsqu'il utilise la discipline, il a dû le faire avec une grâce extraordinaire. Mais c'était dans le temple. Et c'est pour ça que j'ai eu une pensée qui m'est venue pendant que je lisais. Dans le temple, il n'a pas été reçu. Bon, c'était prophétisé. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Et je pensais en même temps, parce que comme je connais quand même la parole, je pensais au fait qu'après cette affaire, il est allé à Béthanie et il a été reçu dans une maison. Mais dans le temple, il n'était pas reçu. Ça fait peur, ça fait peine quand même. Et il a été reçu dans certains endroits. Mes frères et sœurs, il faut de l'ordre dans l'Église. Et je rappelle, et je vous promets, mes frères et sœurs, que je ne pense pas à Sainte-Anne dans cette prédication. Je pense à toute l'Église dans ce pays. Mes frères et sœurs qui m'écoutaient, je sais qu'il y a des pasteurs qui m'écoutent. De grâce, de l'ordre dans nos églises. Quelle que soit la dénomination dans laquelle vous êtes, il faut de l'ordre. Parce que quand il y a de l'ordre, il y a la possibilité d'entendre la parole de Dieu. De réentendre. Non, Dieu n'a pas changé d'avis. Ça fait 2000 ans. La prophétie, ça fait 2800 ans. Dieu n'a pas changé d'avis. Aujourd'hui, novembre 2019, ma maison, dit le Seigneur, doit être une maison de prière. Et je termine avec ce côté béni. C'est le verset 14. Regardez-le, mes frères et sœurs, et retenez cette faveur qui s'est passée ce jour-là, où certains devaient être furieux et en colère de voir Jésus mettre de l'ordre dans sa maison. Et croyez-moi, s'il l'a fait, il l'a fait avec amour. Moi, je ne vois que de l'amour de Dieu là-dedans. Regardez ce qui s'est passé. Si vous n'avez lu qu'un seul texte ce matin, retenez celui-ci de grâce. De grâce. Qu'est-ce qui se passe? Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les chassa. Ah pardon. Les aveugles et les boiteux, je peux vous dire, quand vous lisez Lévitique 21, je crois, je peux vous dire qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Mais regardez, mes frères et sœurs, ce qui se passe. Le Seigneur, conduit par Dieu, fait ce qu'il doit faire, de l'ordre dans sa maison. Et c'est vrai qu'il faut de l'ordre. Il rappelle cette prophétie, car là où le Seigneur est, la parole de Dieu est, il rappelle cette prophétie, certains devaient être furieux. Mais il y a des gens pourtant qui n'étaient pas très en point. Des aveugles, des boiteux. Est-ce que dans la maison de Dieu, aujourd'hui, il y a des aveugles, des boiteux, des gens qui boitent au niveau de la prière, des gens qui sont aveugles au niveau de la prière? Est-ce qu'il y en a dans le royaume de Dieu? Bien sûr, des gens qui sont aveugles. Prier, mais moi je ne vois pas pourquoi prier. Je l'ai entendu, ça fait mal au cœur d'entendre un chrétien qui dit, mais moi je n'ai pas de sujet de prière, moi je ne vois pas pourquoi prier. Mais c'est un aveugle, et je ne veux pas que vous pensiez un instant que je méprise ce genre d'entretien que je peux avoir. Mais quelqu'un qui dit, moi je ne vois pas pourquoi prier, c'est quelqu'un qui est aveugle. Quelqu'un qui prie un jour sur quatre, un jour sur cinq, c'est un boiteux. Moi je crois que tous les jours, quand même, on peut avoir un petit moment où on se tient devant le trône de Dieu. Je veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie. C'est pour notre mal ou c'est pour notre bien, c'est pour nous ennuyer que Dieu nous demande d'avoir un petit moment. Notre Père, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Il ne parle pas de si votre congélateur est plein, ne demandez pas ça. Mais peut-être que votre cœur est vide. Donne-moi, Seigneur, chaque jour, le pain dont j'ai besoin. Ça passera inévitablement par la prière. Des aveugles, des boiteux, et Jésus ne les a pas chassés. Je ne sais pas encore, hier, je me fais des films, vous le savez. Je me suis dit, est-ce que Jésus avait toujours son fouet à la main lorsqu'il a parlé? J'en sais rien, je ne sais pas écrit. Mes frères et sœurs, vous avez vu ce qu'il a fait le Seigneur? Moi, je suis convaincu, mais convaincu, que quand il y a de l'ordre dans sa maison, quand on établit l'ordre dans sa maison, avec grâce, même si des fois il faut peut-être activer un peu, et qu'on rappelle la parole, les prophéties, prenez compte, Jésus, il aurait pu rappeler tout un truc d'une heure, comme moi je viens de faire. Non, une parole, ça suffit. Ma maison sera appelée une maison de prière. Qu'est-ce que vous faites de votre maison, de votre cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? En tous les cas, des aveugles. Et vous voyez, quand il y a la grâce de Dieu, moi je crois qu'on a envie de s'approcher de lui. Ils auraient pu dire, oula, ça craint. On va faire comme les vendeurs, on va partir en courant. Non, quand le Seigneur est là, il nous attire. Ils se sont approchés de Jésus, ils avaient besoin de s'approcher de lui. Ils étaient conscients de leur cécité, ils étaient conscients de leur claudication. Et ils se sont approchés de lui. Et Jésus, ça ne m'étonne pas en plus, il les a guéris. J'aimerais qu'on réponde vraiment. Qu'on réponde en fermant les yeux. Qu'on réponde mais sérieusement. Et qu'on dise, mais c'est vrai, il y a du désordre dans ma maison. Dans mon cœur, je ne parle pas de votre si un peu de linge traîne sur le lit, ce n'est pas ça le désordre. Je parle du désordre spirituel dans votre maison. Il y a du désordre, il y a des choses qui prennent la place de Dieu. Il y a des choses qui remplacent l'idole de la jalousie dans ma maison. Mais qu'est-ce que c'est cette affaire? Oui, ça peut arriver qu'il y ait plein de trucs sur lesquels nous nous sommes fait piéger. Ça peut arriver, on est tous pareils. Ilkija, il a pris le soin de tout sortir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui dit « Oui, ma maison à moi, mon foyer, ma chambre, ou mon salon, mon cœur, l'église dans laquelle tu m'as placé, car si on est là quand même, c'est que Dieu nous y a placé, l'église dans laquelle je suis. » En tous les cas, par ma vie, sera une maison de prière.